Bonjour à tous. J'appelle la bénédiction sur nous tous. Que ces 365 jours, eh bien, Dieu nous dit, ne crains point. Pour tous les jours, ne crains point. Et que ce matin, eh bien, Dieu nous renouvelle avec cette flamme qui brille en moi. Qu'on soit dans la joie, dans la paix. Et Jésus, c'est merveilleux, son nom est au-dessus de tous les noms. Soyez bénis au travers de ces passages qu'on va lire ce matin dans la parole. Mon titre, il est dit vivre par la foi et marcher par la foi. On a parlé, on a chanté la flamme. Et bien que cette flamme soit ranimée ce matin au travers de tout ce qu'on va partager. Je vais citer quelques versets, passablement aussi, pour ceux qui veulent relire ce message, eh bien, ils auront les références pour mieux comprendre et mieux suivre ce que je veux dire ce matin. Avant son retour, Jésus nous a dit, nous a averti qu'il y aura des temps difficiles, très troublés. Puis il nous dit, mais ne craignez pas, car j'ai vaincu le monde. Et ce matin, j'aimerais vous encourager pour que cette foi ne défaille pas. Et on veut prier. Je veux prier pour que le Seigneur puisse attester la foi dans nos cœurs. Oui, Seigneur Jésus, on veut se remettre sous ton sang, Jésus. Et Seigneur, on veut être capté par la puissance de ton esprit ce matin. Que rien ne vienne troubler notre esprit. Là où nous sommes, Seigneur, j'appelle la paix dans les foyers, la paix au milieu de nous, la paix dans nos cœurs, Jésus. Merci parce que tu es puissant, tu es merveilleux. Oh Jésus, atteste ta parole, confirme ta parole par des signes et des miracles ce matin. Merci Seigneur, parce qu'avec mes faibles mots, Seigneur, toi fais le reste. Merci Jésus pour ton amour. Oui, Jésus, il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous dit dans Luc 18:8, mais quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur cette terre? Une question, est-ce qu'il trouvera la foi? Dans Jean 16, 33, il nous dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus est notre rocher, il est notre appui, il est notre forteresse. Jésus est tout pour nous. Qu'on puisse s'appuyer sur ce rocher, qu'on puisse construire sur ce rocher, afin de ne pas être ébranlé, que tout ce qu'on entreprend, tout ce qu'on fait, eh bien, que ça soit validé par Jésus. C'est lui qui construit notre vie, c'est lui qui nous fait grandir dans la foi. Paul, aux Romains, il dit 8, 38, une parole très forte. On voit que Paul, partout où il a passé, il a été persécuté, il a eu des naufrages, on a voulu le lapider. Cet homme fort, eh bien, Paul, il nous dit, car j'ai l'assurance. Il avait l'assurance, et ce matin qu'on ait l'assurance, quoi qu'il arrive, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissants, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Sauveur, notre Seigneur. Rien, 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 même avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, avec ces événements, rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Même si on passe dans des difficultés, Dieu nous aime. On a du prix à ses yeux. Et dans Hébreux 11, il parle de la foi. Il nous dit que la foi, or la foi, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance qu'on marche ferme dans la foi avec Jésus, qu'on soit approuvé par lui. Et au verset 6, il dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » C'est fort. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, eh bien, il faut qu'il croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et Dieu répond aux prières. Il est le rémunérateur. On a une récompense. Tout ce qu'on déploie, tout ce qu'on fait pour glorifier le nom de Jésus, sa personne, eh bien, Dieu y donne une récompense. Ce n'est pas en vain. Et pour avoir cette assurance, eh bien, il faut chercher Dieu de tout son cœur. C'est très important. Dans Romains 10, il dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Voilà. Si on passe du temps à méditer sa parole, à rechercher sa présence dans la prière, dans l'adoration, dans l'intimité avec lui, avec ce dialogue, apprendre aussi à l'écouter. On parle à Dieu, mais est-ce qu'on prend du temps pour l'écouter? On lui donne toutes nos commissions, tous nos désirs, toutes nos ambitions, mais est-ce qu'on prend du temps de faire silence devant Dieu et dire, Seigneur, toi, qu'est-ce que tu en penses? Dans Osée 4:6, il dit, mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque la connaissance. Et si nous négligeons de rechercher la face de Dieu, de méditer sa parole, eh bien, on n'aura pas de connaissance. Pour tout métier, pour toute entreprise, on doit étudier. Et si on veut vraiment avoir la pensée de Jésus, la pensée de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire dans ces temps avec nous, avec nos familles, eh bien, on doit persévérer dans la parole, chercher sa face, être approuvé de Dieu. À Matthieu 5, 13, il dit, nous sommes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Si on perd notre joie, si on perd la paix, si on perd tout ce que Dieu nous a donné, tous ces trésors que Dieu nous a donnés, si on les néglige, qu'est-ce qu'on peut refléter comme joie, comme paix pour le peuple qui nous entoure? Nous sommes le sel, on doit assaisonner. Là où Dieu nous a mis, on doit apporter la justice, on doit apporter la vérité. Si on entend des choses mauvaises, on doit rectifier. C'est là notre travail. On est des sentinelles, on doit avertir. On avertit le méchant, qui nous dit Jésus. Il nous dit aussi que vous êtes la lumière du monde. Et si on n'éclaire pas, on n'a pas cette joie, cette paix, on ne fera pas envie aux autres. Cette paix, le monde doit sentir que l'Église, elle marche dans la paix avec son Seigneur. On doit apporter la bénédiction là où il y a l'angoisse, où il y a le désordre. Nous sommes des sentinelles, on n'est pas des gendarmes, mais on est dans l'amour, on peut redresser, on peut exhorter, on peut encourager, afin que vraiment ce sel, il ait de la saveur. Dieu nous a donné son autorité ce matin. On veut vraiment être rempli de lui. Dans Éphésiens 1:4, il dit, Nous sommes élus avant la fondation du monde, avant que nous ayons été créés. Dieu, nos noms étaient écrits dans le livre de vie. Nous sommes élus. C'est quelque chose, c'est une position extraordinaire. Un élu politique, il a un pouvoir. Nous, nous sommes élus dans la main de Dieu. Nous sommes ambassadeurs, nous sommes ses témoins pour Jésus, pour annoncer au monde que Jésus les aime. Jésus les pardonne, Jésus veut leur bonheur, veut leur joie. C'est ça notre position. On doit prendre notre position, on n'est pas des... Non, on est la tête, on n'est pas la queue. On a une autorité que Dieu nous a donnée et on doit l'exercer. Dans Éphésiens 1, versets 3 et 4, il nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Recherchons la bénédiction spirituelle. Allons dans la prière chercher ce que Dieu a pour nous. Il a des cadeaux extraordinaires, il a des révélations extraordinaires pour nous. Cette bénédiction spirituelle, nous devons la prendre, nous devons la saisir, nous devons la mettre en pratique. Dans Hébreux 13, il dit « Nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus au travers de la croix de Golgotha. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ça nous réjouit, ça nous donne la joie. » Il nous a libérés à la croix, le Seigneur, par son sang. C'est une position aussi extraordinaire. Relevons la tête. On a une importance. Chacun est important dans le plan de Dieu, dans la maison du Seigneur. Chacun est important qu'on puisse vraiment mettre en action tous les dons, tout ce que Dieu nous a donné. Au travers de la croix de Golgotha, il nous dit dans Marc, le voile du temple se déchira en deux. Imaginez-vous la puissance, parce que c'était un temple avec des voiles, c'est pas des petits rideaux, ça doit être des étoffes épaisses. Eh bien, la puissance de Dieu, elle a déchiré ce voile en deux. Du haut en bas. Et ça nous montre bien que nous avons ce libre accès auprès du Père, au travers de Jésus-Christ, au travers de la croix de Golgotha, on a accès au Père pour la prière, pour l'intercession. Dieu nous libère. Mais entrons dans sa présence. Il n'y a pas d'obstacle. On est complètement libéré. En esprit, on peut le louer partout où on est, partout où Dieu nous place. On peut avoir cette communion intime avec lui. Dans la Bible, nous voyons des hommes et des femmes qui ont marché par la foi. Je vais citer du verset, mais si, pour ceux qui veulent étudier, ils peuvent les noter, parce que c'est très important. On peut commencer par Noé, Genèse 6, verset 9. Noé était un homme intègre et juste. Déjà, la qualification que Dieu donne. Noé exécuta tout ce que Dieu avait ordonné. Tout ce que Dieu lui a ordonné, Noé l'a fait. Il a donné les plans, comment construire cette arche. La foi de Noé, ben ça l'a sauvé. Il aurait pu dire, mais... pourquoi construire une arche? Il n'y a pas de pluie. Parce que dans ce temps-là, c'était la rosée, il ne pleuvait pas. Mais il avait la foi. Il a entendu, il a écouté la voix de Dieu et il l'a mis en pratique. Et toute sa famille a été sauvée. Dans Genèse 17, verset 1, on voit Abraham qui marche avec Dieu. Et Dieu lui dit, marche devant ma face, devant ma face, pas derrière, pas à côté, mais en face, Et Dieu veut qu'on soit honnête. Dieu veut qu'on soit franc. Si on s'approche de Dieu avec un cœur sincère, un cœur pur, eh bien c'est ça qu'il veut. En face de Dieu, pour connaître la vérité. Il dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Voilà encore une qualité, intègre. Ne laisse pas tomber des miettes à côté, mais prends tout ce que Dieu te donne, prends tout ce que la Bible donne, enseigne, mets-la en pratique. Il y a un récit pour Moïse dans Hébreux 11, mais on le retrouve dans l'Exode. Moïse vivait dans le palais du roi de Pharaon. Il a été bien éduqué, puisque c'est une famille de nobles, un roi. On pense que Moïse a été bien enseigné. Je pense qu'il était très intelligent et qu'il a été placé à des niveaux supérieurs pour, comme contremaître ou autre, pour les travaux avec les Hébreux. Mais voilà, sa source, elle n'est pas en Égypte. Sa source, il a des racines de foi de sa maman, de ses parents. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, Moïse, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir les richesses d'Égypte. Voilà ce qu'il a préféré. Et nous, ce matin, qu'est-ce qu'on veut préférer? Qu'est-ce qu'on veut choisir, Seigneur? Moïse, dans Exode, là, lors de 11, Moïse s'enfuit. On sait pourquoi, hein, il a eu des bagarres. Il s'enfuit en Égypte parce qu'il a eu peur que Pharaon se retourne contre lui. Il s'est sauvé, il s'est enfui pour sauver sa vie. Et puis c'est au mont Sinaï que Dieu vraiment l'intercepte et lui parle pour libérer son peuple qui est sous l'esclavage. Moïse a su aussi se tourner vers Dieu et écouter Dieu et obéir à Dieu. Dans Josué 1,18, il dit, Dieu lui dit, je ne t'abandonnerai point. Et ce matin, il nous le dit aussi à nous, je ne vous abandonnerai point. Chaque jour, je serai avec vous. Je ne t'abandonnerai point. Dieu lui dit, médite jour et nuit et mets en pratique tout ce qui est écrit dans le livre. Et par la suite, on voit que oui, Josué a obéi. Et c'est Josué qui a fait entrer les Hébreux dans le pays de Canaan. Il a su écouter Dieu, il a su obéir à ce que Dieu lui disait. Un peu plus loin, on voit Juges 6:11 avec Gédéon. Gédéon qui va combattre Madian. Là aussi, c'est une expérience extraordinaire. Si vous lisez ce chapitre, vous allez voir comment Dieu parle. Comment Dieu a parlé à Gédéon. Puis Gédéon lui pose des questions. Gédéon, il met une toison. Et Dieu lui répond. C'est quand même fabuleux. Et ça nous montre que Dieu n'est pas loin. Dieu est tout près de nous. Dieu, il est en nous. C'est pas un Dieu lointain qu'on sert, c'est pas un Dieu vague. Mais là, quand on voit cette conversation que a Gédéon avec Dieu, mais on voit que c'est intime, que c'est donnant-donnant. C'est extraordinaire. Eh bien, c'est beau parce qu'on est dans la joie, parce qu'on sert un Dieu comme ça. Combien de fois Dieu nous parle, on agit et on voit le résultat. On voit la bénédiction. Dans Samuel, on voit que Anne, mère du jeune Samuel, Anne qui ne peut pas avoir d'enfant, pendant des années. Alors elle prie, elle intercède, elle pleure. Puis le jour où elle a cet enfant, c'est merveilleux, elle le consacre à l'Éternel. Elle le donne à Jésus. Et ça la réjouit. Et puis, ça m'a montré aussi que nos enfants, donnons-les au Seigneur. Afin que Dieu puisse vraiment s'occuper de nos enfants. On doit les enseigner, mais en laissant la charge spirituellement, mentalement et tout au Seigneur, Dieu, il en prend soin, il leur parle dans leur conscience. Et puis Jésus nous dit « Déchargez-vous de vos soucis sur moi, sur Jésus ». Eh bien, nos enfants, on peut aussi se décharger, parce que des fois c'est des soucis, on s'inquiète, des fois trop. Mais faisons confiance au Seigneur, si on les remet, eh bien après on voit combien Samuel a été une bénédiction pour le peuple. Plus loin, dans Samuel 17, 37, on voit David, un jeune soldat, il entre dans l'armée de Saül. Vous voyez ce jeune tout fou, tout heureux, hein, parce qu'on sait qu'il a bagarré avec des lions, il était vainqueur. Il avait la foi. Il a dit au nom de l'Éternel, je veux vaincre. Et là, je pense qu'il avait déjà cette idée-là, et Goliath. Et David est sur le champ de bataille et il entend Goliath insulter l'armée du Dieu vivant. Et ça, ça y a monté à la tête. Je pense que ça y a eu une réaction. Et c'est vrai, on ne doit pas écouter, entendre des moqueries de Dieu, des insultes contre Dieu. Nous sommes vraiment, on ne peut pas défendre, mais on peut reprendre, dire, mais on ne doit pas, on doit respecter ce que Dieu fait, ce que Dieu dit. Et là, David, eh bien, voilà, il a pris les grands moyens, il a pris sa fronde, des pierres, hop, il a tué Goliath. C'est géant. Eh bien, des fois, on a aussi des géants dans nos vies. Et c'est au travers de la prière qu'on va les combattre, qu'on va les détruire. Parce qu'on est plus que vainqueur. Il s'est pas laissé arrêter parce qu'il a vu. Il s'est pas arrêté par la grandeur de cet homme, mais c'est par la foi au nom de l'Éternel, le Dieu des armées, qu'on combat. Et puis Dieu nous dit, Dieu combattra pour vous. Donc voyez, on marche ensemble, Dieu et nous, dans la prière. Le combat est le même. David était vainqueur. Et Dieu il dit que David, il avait le cœur de Dieu. C'est fort, ça. Est-ce qu'on a le cœur de Dieu, nous? David a fauté, il a eu des épreuves. Mais on sait qu'il s'est humilié, il a demandé pardon pour toutes ses erreurs. Il a appris à louer Dieu, à le remercier, à le glorifier. Et on le voit au travers de tous les psaumes de David. Combien ils sont enrichissants, combien ils nous font du bien, ces psaumes. Bien, c'est de David, lui qui a péché, mais qui a été pardonné, et puis qui s'est humilié. Dans 1 Roi 17, 8, on voit Élie. Ce sont tous des passages, mais bénis dans la vie de ces hommes qui ont marché par la foi. Élie, Dieu l'envoie à Sarepta. Et là, il y a une veuve avec un fils, une pauvre veuve qui l'a dit. Elle a de quoi de faire un peu de farine, un peu d'huile, juste un gâteau. Puis elle dit, ben, on va manger ce gâteau, puis après on va mourir avec son fils. Mais Élie dit, non, écoute, ce gâteau que tu prépares, donne-le-moi, je veux le manger. Et là, on voit que cette veuve a une bonne attitude. Elle a voulu honorer Élie. Elle s'est oubliée pour Élie. Elle a vu qu'il y a, mais elle a dit non, d'abord mon maître, d'abord mon serviteur, et puis après, ben, on verra. Et bien souvent, Dieu nous demande des sacrifices qui coûtent. C'est dur des fois, des sacrifices qui coûtent. Des fois, on croit qu'on va tout perdre. Mais ici, la bénédiction, c'est que elle a obéi. Elle s'est oubliée pour Élie. Et le résultat, eh bien, on voit plus loin que les pots de farine et les pots d'huile ont été renouvelés, ont été remplis. C'est extraordinaire, cette histoire. Parce que des fois, Dieu nous demande des sacrifices, ça coûte. Mais si on obéit par la foi, eh bien, Dieu, il nous récompense. Et dans Job 1, il est aussi dit, cet homme est intègre et droit. C'est extraordinaire, toutes ces qualifications, hein, jusqu'à présent. Tous ces hommes de Dieu, ils sont intègres et droits. On pourrait se poser la question, Seigneur, est-ce que je suis intègre? Est-ce que je suis droit? Ou bien je fais des tourloupettes? Je fais des choses qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas justes? Il y a peut-être du vol derrière? Non. Ce sont des hommes intègres et droits. Et c'est ça que Dieu veut. Pour avoir confiance en nous, on doit être intègre et droit. Et Job, il dit, il craignait Dieu. Mais on connaît son parcours, il a souffert. Il a souffert terriblement pour se gratter avec des tisons de verre. Il faut vraiment souffrir. Et Job, il a tout perdu, sa maison, ses enfants. Mais il n'a pas renié son Dieu. Parce que son épouse, elle disait, mais renie ton Dieu, puis tu seras dégagé. Non, il n'a pas voulu. Job était un homme intègre et droit. Et Dieu a vu son cœur qui était vrai. Et Dieu lui parle. Quand on est dans l'épreuve, caché dans le Seigneur, à un moment donné, Dieu y prend pitié de nous et il nous parle. Dans Job 42, après Job, il dit, « Je reconnais que tu peux tout, Dieu. » Avec tout ce qu'on a raconté avec mes copains, tous ces partages, ces vanités des vanités, je reconnais que tu peux tout, tu as les paroles. Et il dit, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est extraordinaire. Et il dit, c'est pourquoi je me condamne et je me repens. Il n'a rien fait de faux, Job, que de parler un peu en vain, des opinions. Mais il a vu que c'était vanité et il s'est repenti. Même pour cette situation, alors qu'il était dans l'épreuve, il s'est repenti. Et parfois, on passe dans la souffrance. On passe dans les difficultés, comme Job. Mais il a eu la patience. Ça a été long. Et puis Dieu l'a délivré. À un moment donné, Dieu lui dit, stop, jusque-là, pas plus loin. Comme il a dit à la mer, jusque-là, pas plus loin. Dieu est maître de toutes choses. On pourrait parler de Daniel aussi, qui priait 3 fois par jour. Il recherchait la face de Dieu. Et puis on sait qu'il a eu des visions et des prophéties. Et ils sont en mesure de s'accomplir. Tout ce que Daniel a annoncé, on le voit sous nos yeux. Et puis on arrive dans le Nouveau Testament. Jésus rencontre beaucoup de gens qui ont la foi. C'est extraordinaire. Jésus parcourait la Galilée et sur son chemin, eh bien, il a rencontré beaucoup de gens, beaucoup de pécheurs. Dans Matthieu 8, 2, il dit, il y a un lépreux qui crie. Il crie, Seigneur, prends pitié de moi. Et Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse, que je sois guéri? Parce qu'il souffrait aussi. Il s'est approché de Dieu, il a dû crier à Dieu. Je pense que dans la foule, il y a beaucoup de bruit. Et puis peut-être par son handicap, c'était peut-être compliqué, mais il a quand même crié. Et Jésus lui dit, ben, sois guéri. Jésus l'a guéri. Dieu est amour. Plus loin, un autre jour, Jésus rencontre un centenier, puis le centenier, il a entendu, ça se dit vite, les bonnes nouvelles, que Jésus guérit, il fait des miracles. Alors le centenier s'approche de Jésus et lui dit, mais Jésus, mon serviteur est à la maison, couché, il est malade. Viens, je t'en prie. Prie pour lui, il sera guéri. Là, il est invité. Mais Jésus, il ne s'est pas déplacé. Il lui dit, mais écoute, va, puisque tu as la foi, que ton serviteur sera guéri, va. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et le lendemain, ils ont regardé, c'est toute l'histoire, et bien à cette même heure, le serviteur fut guéri. Au moment où Jésus a dit, mais qu'il soit fait selon ta foi, le serviteur a été guéri. Et c'est extraordinaire ce passage parce que Dieu, des fois, il nous met à cœur de prier pour les malades, il nous met à cœur pour prier pour tel et tel, pour des situations. Mais même si on n'est pas sur place, comme là, Jésus n'était pas vers le serviteur. La guérison, la bénédiction, elle s'est opérée. Et c'est de même pour nous, quand Dieu nous met à cœur par l'Esprit, tout d'un coup, il nous dit, mets-toi à part, prie pour telle et telle chose, pour telle et telle personne. Bien, au moment même qu'on prie, qu'on demande, qu'on appelle la guérison, Dieu, il guérit. Il l'a fait, là. De même, Jésus a prié pour des aveugles. Ils ont été guéris. Plein de guérisons. Puis, il nous dit, mais soyez mes imitateurs. C'est pour ça qu'on doit être vraiment conduit par le Saint-Esprit. Quand Dieu nous dit qu'il ordonne, la chose se fait. On ne peut pas aller par notre sentiment, par non, si Dieu ne donne pas le feu vert, on est sage. Mais là, c'était extraordinaire. Dieu, sur sa parole, il a été guéri. Jésus nous dit qu'il a envoyé sa parole et les a guéris. Plus loin, dans Matthieu 9, un chef demande à Jésus de venir prier pour sa fille qui est morte. Et là, c'est beau parce que Jésus s'est déplacé. Il est allé dans cette maison. Il a vu cette jeune fille. Et il dit, mais elle n'est pas morte, elle dort. Alors que tous les gens qui étaient là, ils voyaient qu'elle était morte. Mais par la foi, Dieu nous donne des fois la vision beaucoup plus grande de ce qui est actuel. Et là, Jésus, bien, il pria. Il a ordonné à la fille de se lever, elle a été guérie, ressuscitée, qu'on pourrait dire. Le miracle se fait. C'est merveilleux. Ce chef avait la foi que s'il demandait à Jésus, Jésus guérit, Jésus sauve. Dans Marc 5, versets 15 à 34, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Depuis 12 ans. C'est long, c'est pénible, c'est souffrant. Et il nous dit, elle a dépensé tous ses biens pour plusieurs médecins sans être guérie. Pendant 12 ans, elle a tout dépensé, elle a fait tous les médecins. Imaginez-vous la déception dans son cœur. Et là aussi, elle entend parler de Jésus. Qui guérit, qui sauve. Alors elle se dit en elle-même, mais si seulement je pouvais toucher son vêtement, toucher, pas prendre, pas saisir, mais toucher, je serais guérie. Cette dame, cette femme, elle avait la foi que si elle touchait Jésus, Jésus la guérissait. Et au même instant, il est dit, quand elle l'a touchée, elle fut guérie. Et Jésus, dans la foule, oppressé, hein, il y avait plein de monde, Jésus dit, mais qui m'a touché? Qui m'a touché? Parce qu'il a senti une force qui est partie de lui. Et c'est vrai, quand on sent qu'on est rempli de l'Esprit, qu'on sent cette bénédiction, on sent que Dieu, que le canal passe au travers de nous tous, dans la prière, et il touche le malade, il touche la personne. Et ses disciples, ils lui dirent, mais Jésus, la foule te presse, tout le monde te touche. Mais il dit non. Spécialement, il y a quelqu'un qui m'a touché parce qu'il a senti une force qui est sortie de lui. Puis bien sûr, en regardant la femme, elle s'est vue, voilà, que Jésus la regardait, elle a été effrayée. Elle a eu peur. Toute tremblante, elle se jette aux pieds de Jésus. Et là, ben, c'est la gloire. Elle est guérie, elle a senti dans son corps qu'elle était guérie. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a sauvée. Elle avait l'assurance que si je touche Jésus, elle serait guérie. Et nous, c'est pareil, dans la foi, on s'approche de Dieu, on s'approche de Jésus. Par le Saint-Esprit, on a l'assurance que Dieu veut agir, que Dieu veut parler. Qu'on ait cette foi agissante, parce que Dieu honore la foi de ses enfants. Dieu nous demande de marcher par la foi et de mettre sa parole en pratique. Que le Seigneur nous bénisse tous. Qu'on puisse vraiment persévérer dans la prière. Rechercher sa face. Mettre en pratique sa parole. Là, on a fait, personnellement, puis avec mon épouse, on a mis en pratique la parole. Quant à ma conversion, j'ai dit, Seigneur, ce que tu dis, je vais le faire. Et j'ai fait ce que Jésus faisait. Et le résultat était glorieux. On a vu des miracles. Mettre en pratique sa parole. Jésus est notre exemple. Il est tous les jours avec nous. Alléluia. Et c'est une bonne nouvelle. Merci Seigneur. Soyez tous bénis. J'aimerais prier. Et par la foi, vous aussi, par la foi, vous mettez votre main où vous n'êtes pas bien. Vous avez mal sur votre cœur. Je veux prier. Je ne suis pas un juge, je suis un qu'un pécheur. Mais Jésus dit, la prière du juste a une grande efficacité. Au nom de Jésus, on fera de grandes choses. Eh bien, Seigneur Jésus, Père éternel, c'est dans le nom puissant de Jésus que j'appelle la bénédiction sur nous tous, la bénédiction dans nos foyers, la bénédiction sur nos familles. Père Céleste, j'appelle vraiment en ton nom, Seigneur Jésus, toutes les bénédictions spirituelles qui sont dans le ciel, qu'elles nous soient accordées, qu'elles nous soient révélées, que les familles soient renouvelées dans la joie, dans la paix. Merci Seigneur Jésus, et j'appelle la guérison sur tous ceux qui sont touchés dans leur santé, que ce soit cancer, que ce soit toutes sortes de maladies, toutes sortes de faiblesses. Seigneur Jésus, je te demande vraiment dans ta grâce, tu connais leurs besoins. Et bien maintenant, Saint-Esprit, je te demande là où ils sont, de les toucher, de leur montrer que tu es un Dieu qui guérit, tu es un Dieu qui sauve, que tous ceux qui se donnent au Seigneur soient sauvés. Au nom de Jésus, Seigneur, merci. Merci Seigneur, parce que j'appelle ta bénédiction, j'appelle la guérison. J'appelle, Seigneur Jésus, cette paix dans les cœurs. Ceux qui sont angoissés, ceux qui sont troublés, bien, j'appelle la paix. Que tous ces esprits qui ne viennent pas de toi, Jésus, je les chasse au nom de Jésus. Parce que, Seigneur, toi, tu es saint et tu nous donnes un esprit pur, un esprit saint. Seigneur, merci pour ta bénédiction pour nous tous, dans la puissance du sang de Jésus. Amen. Soyez bénis.